I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo, qu'elle soit sur console, sur PC, sur mobile même. Et en l'occurrence, on va vous parler de la Gamescom en long, en large et en travers. Je suis Patrick Béja, votre hôte qui vous reçoit dans cette émission et j'ai le plaisir pour m'accompagner d'avoir Irène qui a réussi à rentrer chez elle.
Oui, tout à fait,
était pas gagné
par miracle.
Après son voyage à la Gamescom.
Je suis partie à la Gamescom en claquant la porte de chez moi avec les clés à l'intérieur.
Ce sont des choses qui arrivent, hein. La Gamescom, c'est très excitant comme événement, donc on en perd un petit peu la tête parfois.
Oui, bah du coup, je suis partie à la Gamescom avec un niveau de stress assez élevé quand même.
Bon, mais c'est bon, t'as réussi à rentrer chez toi grâce à l'aide de tes voisines qui ont été incroyables. Donc,
tout à fait. Bien, au final. Je ne sais pas si elles m'écoutent, je ne pense pas, mais au cas où, je leur fais des bisous.
Très bien. Et pour nous accompagner également, on a Jean-Noël, qui lui n'était pas à la Gamescom, mais par contre qui est présent pour nous parler de ce qu'il en a vu. Comment ça va?
Bonjour, ça va très bien effectivement, j'étais pas à la Gamescom, j'étais tranquillou chez moi, j'étais à la plage, j'étais me balader et j'ai suivi un petit peu la Gamescom sur les bons réseaux sociaux.
Oui, exactement. Donc Jean, animateur de Papa à quoi tu joues,
voilà.
Le podcast qui parle de comment appréhender les jeux vidéo quand on a des enfants.
Et exactement.
Sujet palpitant. Et Diraen, qui elle aussi est podcasteuse, ABCD notamment, et diverses apparitions, je crois, dans tous les podcasts de la Terre. Et qui est également, qui travaille dans l'industrie du jeu vidéo. Alors, je ne sais pas si on dit chez qui tu travailles.
Je m'occupe du doublage et de la traduction chez un grand éditeur de jeux vidéo.
Voilà. Et
ça
bien évidemment, ça n'est pas en cette qualité que tu es présente là, aujourd'hui chez nous. Mais quand même.
J'espère, parce que j'ai rien préparé sinon.
Mais quand même, ça veut dire que tu es tout le temps à la Gamescom et ça va mener à ma première question sur cette édition 2017. En gros, tes impressions comme ça générales sur la Gamescom de cette année, tu étais sur place et tu as suivi l'actualité. Bonne édition, moyenne édition, qu'est-ce que t'en as pensé? Et les impressions sur place, bien sûr, comme toujours, c'est un gros événement.
Alors, je suis pas sûre d'être tout à fait objective parce que j'avais pas pu y aller la semaine dernière, donc j'étais déjà hyper contente de pouvoir revenir cette année.
L'année dernière, tu veux dire.
Mais j'ai pas pu y aller l'année dernière, donc c'est je suis ça. Assez contente d'avoir pu revenir cette année.
Oui, parce que tu t'as dit la semaine dernière.
Voilà. Alors, la Gamescom, on dort pas beaucoup. On fait beaucoup de trucs, c'est très fatigant. Je vais probablement en faire plusieurs comme ça.
Oui, non, mais je confirme, moi j'y suis allé peut-être 5 ans de suite et oui, c'est pas de tout repos, effectivement.
Ouais. Et puis bon, après, moi je suis quand même restée pas mal du côté business, donc là où il y a tous les trucs business, mais aussi là où il y a tous les éditeurs qui présentent aux journalistes. Et du coup, je pense que l'ambiance est un peu différente de la partie grand public, consumer. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a toujours plus de monde chaque année, en fait. Mmh. Donc, c'est un truc complètement fou, hein. Je pense que quand on l'a pas vu de ses yeux, c'est assez difficile à imaginer. La quantité de personnes que ça draine, le nombre de gamers qui viennent, ils viennent d'un peu partout, et puis surtout l'enthousiasme des éditeurs, des développeurs qui mettent vraiment le paquet, parce que c'est le moment d'impressionner les joueurs avant qu'ils passent leur commande au Père Noël.
Exactement, oui, c'est souvent le but de ces salons qui arrivent un petit peu plus tard dans l'année, dans la deuxième partie de l'année. Il y a la Gamescom, la Paris Games Week qui aussi est en train un petit peu de prendre sa place dans ce créneau. On essaye de vendre les jeux plutôt que de présenter nos projets à venir. Ça dessert parfois un petit peu les salons parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de grosses nouveautés. Et c'était clairement le cas dans cette édition également. Mais c'est vrai aussi, là, pour l'aspect un petit peu plus comment est-ce que l'industrie l'appréhende, au-delà de l'occasion de montrer leurs bijoux brillants pour éblouir les joueurs, c'est vrai que la Gamescom en particulier, c'est le plus gros salon de jeux vidéo au monde, avec, je sais plus à combien on est maintenant, mais 360 000 personnes qui viennent sur 4-5 jours. Alors, pour être clair, on compte dans ce genre d'événements, c'est pas les personnes individuelles, c'est le nombre de personnes qui rentrent dans le salon cumulé sur tous les jours. Donc ça peut être beaucoup moins chaque jour, et puis il y a des gens qui reviennent plusieurs fois, plusieurs jours de suite, mais il n'empêche, c'est comme ça qu'on compte. Et pour vous donner une idée, l'E3, qui est un énorme salon au niveau communication, c'est pas un salon public. Et la Gamescom, c'est-à-dire que l'E3, il y a peut-être l'équivalent, pour si on compte en unité d'événementiel, on va dire une halle ou deux. Pour l'E3, alors on va pas définir exactement la taille d'une halle, mais pour vous donner une idée de l'ampleur, à la Gamescom, il y en a, je sais pas, peut-être 7 ou 8, quoi. Donc, entre une ou deux pour l'E3, et même pour la Paris Games Week, il y en a peut-être 3, quelque chose comme ça, et la Gamescom, c'est 7 ou 8. Même le TGS, le Tokyo Game Show, bon, il est plus petit aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque, mais même à l'époque, il n'était pas aussi grand. Le Tokyo Game Show, c'est, si je ne m'abuse, 120, 150 000 personnes, quoi, quelque chose comme ça. Et voir... Alors, c'est la terreur des professionnels, c'est d'être sur le show floor, dans le salon, pendant les jours publics, quoi, parce que c'est vraiment des marées humaines, quoi.
C'est l'équivalent de l'enfer. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour tous les animateurs, les gens qui tiennent les stands, etc. Parce que le niveau de son est incroyablement élevé entre le bruit que font les gens en parlant entre eux, etc., etc. Et le son des jeux qui est mis plus fort pour couvrir ses voix, et donc les gens parlent encore plus fort.
Enfin, et bref, pour couvrir le son des jeux du stand qui est à côté, à 20 mètres.
Du stand d'à côté, c'est une espèce de surenchère auditive, sonore, c'est assez épouvantable. Et puis il y a des queues devant les bornes de jeux qui sont complètement folles. J'ai croisé plein de gens avec des chaises de pêcheurs, tu sais. les gars, ils viennent de plus en plus préparés, et puis il y a aussi des éditeurs qui proposent des chaises en carton. C'est-à-dire que c'est une espèce de triangle en carton sur lequel tu poses un autre carton pour faire ton siège. Et voilà. Et donc voilà, les gens restent à faire la queue pendant 3-4 heures pour mettre la main sur un jeu.
Ouais, pendant 20 minutes sur un jeu, quoi.
C'est ça. C'est entre 10 et 20 minutes de test, quoi.
Et alors, moi.
Et juste parce que tu disais que l'E3 n'était pas ouvert au public, il est ouvert depuis cette année.
C'est vrai.
Ils ont ouvert cette année.
Tu as raison.
Mais ça reste hyper cher. Alors, pour le coup, le prix d'entrée de l'E3, ça doit être $150, je crois. Et il me semble que pour la Gamescom, ça doit être 50 € pour les 4 jours. Donc, on n'est pas tout sur le même ratio, quoi.
Effectivement, oui. L'E3, disons, il est passé par différentes phases. Il a été à un moment semi-public. Aujourd'hui, il est redevenu public. Mais je crois que c'était genre 50 000 places à l'E3, un truc comme ça. C'était beaucoup plus petit. Et il continue à augmenter la place du public à l'E3, ce qui d'ailleurs, on en parlera peut-être un jour, mais ça déplaît à certains. Mais oui, donc la Gamescom, c'est vraiment le gros salon public, la fête du jeu vidéo pour les vrais joueurs, entre guillemets. Moi, j'ai toujours du mal à comprendre l'attrait de ce genre d'événement parce que je suis un petit peu agoraphobe. J'adore pas la foule. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une ambiance très particulière, et c'est la rencontre entre joueurs, entre gens comme nous, quoi. Et tu y vas, et c'est juste, il y a des joueurs partout. Mais partout. C'est assez dingue. Partout où tu vas, c'est comme les conventions de ce type, mais là, c'est la grande. C'est pas une. J'allais dire la grande messe du jeu vidéo. C'est pas ça. C'est plutôt le festival. C'est genre comme un festival de musique, un festival de rock quelque part où c'est un petit peu le bordel, il pleut, t'es dans la boue, il y a du monde partout, les toilettes sont bouchées et tu manges des hot dogs dégueulasses. Sauf que là, c'est la même chose mais pour les jeux vidéo et il y a un certain plaisir, une certaine joie à cette
C'est le truc qui me frappe à chaque fois par rapport à la Paris Games Week par exemple, je trouve qu'il y a quelque chose de beaucoup plus joyeux et festif à la Gamescom qu'à la Paris par exemple.
Ouais,
Les gens sont. Il y a une ambiance. Les gens sont contents d'être là et il y a pas. Enfin, c'est. Je sais pas. Je me sens moins oppressée à la Gamescom qu'à la Paris Games Week. Alors c'est peut-être une histoire d'espace aussi. Le salon étant très très grand, il y en a pour tous les goûts. Les gens sont moins concentrés sur des certains endroits, mais.
Ouais.
Il y a une ambiance particulière.
Ouais, c'est assez vrai. Et puis il y a des currywurst, des gens en sandales avec des chaussettes dedans, tout ça, c'est l'Allemagne, quoi. Donc forcément la bière, etc. Ça met une coloration spéciale à la Gamescom, évidemment.
C'est vrai.
Et puis, bon, si on doit parler de l'ambiance en France, je crois que le cynisme pourrait être évoqué aussi. Et on le ressent également à la Paris Games Week, je crois. Mais ça serait une autre conversation.
Moi, pour être extérieur à ça, j'ai jamais mis les pieds, mais de l'extérieur, j'ai l'impression que c'est Oktoberfest, mais pour le jeu vidéo, en fait.
Ouais, non, mais c'est un petit peu ça, c'est un petit peu ça. Il y a cette convivialité qui se ressent définitivement, et puis cet aspect, enfin il y a aussi les trucs bizarres genre les jeux comme Farming Simulator d'ailleurs auquel Angela Merkel a joué, parce que Angela Merkel est allée faire une petite visite à la Gamescom, ce qui était quand même un petit événement, et elle a joué à Farming Simulator, elle a joué à quelques jeux, elle a pris une photo avec des mascottes de tous les trucs de jeux vidéo, c'est bien quoi, c'est anecdotique, mais c'est bien de montrer que le gouvernement, c'est beaucoup le cas en France aussi, je pense que le gouvernement soutient pas mal cette industrie et c'est le cas en Allemagne aussi, c'est positif quoi. On a, je pense qu'on a bien évolué au niveau de l'image également, de l'image de jeux vidéo néfastes qu'on avait il y a encore que quelques années, aujourd'hui on voit plus du tout ça quoi.
Il était temps.
Ouais. Bah, cette
puis
idée,
de toute façon,
genre...
avec tout l'argent que ça brasse, il y a un moment, même si c'est néfaste, ça intéresse les gens.
Non, c'est sûr, mais tu sais, ne serait-ce que la Gamescom aurait donné lieu en France, en Allemagne, à des articles du genre, ah, tu vois, des trucs un petit peu condescendants, tous ces les jeunes qui passent leur temps devant les jeux vidéo ou devant la télé ou machin. Et aujourd'hui, ça se voit même plus, quoi, ce genre d'article. Même si c'était pas la norme, il y a quelques années, on en voyait. Encore il y a quoi 5-10 ans et aujourd'hui ça se voit plus du tout. Donc enfin bref, les jeux vidéo sont acceptés, c'est pas un scoop. Continuons plutôt à examiner ce qui s'est passé à la Gamescom un petit peu plus en détail maintenant, en parlant de cette conférence Microsoft qui a ouvert le festival de la Gamescom. Et je dis conférence, mais c'est pas exactement conférence qu'il faudrait dire, je crois, parce que c'était pas un. Enfin, ils ont dit que ça allait être un truc de petite ampleur. Mais au final, je vous dirai ce que j'en pense ensuite. Est-ce que vous l'avez vu et qu'est-ce que vous en avez pensé? Peut-être Jean, t'as regardé la conférence?
Alors, je l'ai regardé, je l'ai survolé, un petit peu en profondeur, mais ça faisait talk show, ça faisait pas conférence. C'était pas foufou, c'était petit. C'est sans prétention, jusqu'à ce point d'orgue qui était le unboxing de la Xbox. voilà, mais non, un truc comme ça qui se laisse regarder. Tu sais pas que c'est Xbox, tu sais pas que c'est Microsoft, tu sais pas que c'est Xbox. Bon, voilà, tu vois des gens qui parlent.
Ouais. Tu l'as vu, d'Irene? T'étais peut-être occupée, toi.
Non, moi, je ne l'ai pas du tout vu. J'ai juste regardé les trailers. Extrait de la conférence, j'en ai regardé quelques-uns, mais
d'accord.
Non, il va falloir que tu me racontes cette histoire d'unboxing.
Alors,
je t'avoue que ça sonne bizarre.
Bah écoute, ce qui s'est passé, c'est que bon, d'une part, la conférence en elle-même, pour ceux qui l'ont pas vue, c'était, je vais être clair, et même si certains vont être encore énervés, qu'on va avoir l'impression que je m'acharne contre Microsoft, c'est vraiment pas le cas. Mais le fait est que cette conférence, c'était un petit peu décevant dans la forme, d'une part, parce que c'était trois personnes ou deux personnes sur un canapé qui recevaient des gens pour qui allaient vendre leurs jeux, et ça faisait. En fait, je me disais, ils ont l'occasion de faire un truc genre Nintendo Direct. Pourquoi pas ? Les Nintendo Direct, c'était hyper bizarre, on s'en moquait au début. Aujourd'hui, bon, ils ont leur charme, c'est honnête, tu vois, et bon, pourquoi pas ? Et en fait, c'était pas vraiment un Nintendo Direct, c'était plutôt genre un Nintendo Treehouse. C'est-à-dire les gens qui viennent jouer à des jeux qui ont déjà été présentés. Et en fait, je le disais dans la version anglaise de l'émission, dans Pixels, en fait, c'est même pas Nintendo Treehouse, ça m'a fait penser au PC Gaming Show de l'E3.
Oh la vache.
Voilà, non mais exactement. Et sincèrement, je pense que même les gens qui sont qui attendaient, enfin qui apprécient Microsoft vont être d'accord pour dire que la conférence n'était pas franchement réussie. C'était très 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 marketing. Une question sur deux, c'était ah mais enfin quand même votre jeu sur la avec la puissance de la Xbox One X, il est incroyable. Et là le développeur qui embrayait avec la phrase écrite par un représentant presse quoi, ou un type du marketing. Alors, la phrase qui disait ouais pardon.
Juste ce qui manquait, pareil, au niveau de la forme, pour aller dans le sens de ce que tu dis, c'est que, Xbox One X, 4K, mais le stream était juste en 1080.
Oui, donc, bon, écoute, moi je t'avoue que j'ai pas de télé 4K, donc ça m'a pas déçu.
Alors moi qui ai récemment acquisition d'un écran 4K, donc j'aurais bien aimé voir ce que ça donne un jeu Xbox One X sur 4K, et le flux ne me le permettait pas, et je trouvais ça dommage.
Effectivement, bah écoute, pour tester, je te propose d'acheter la console.
Bah écoute, justement, on va y venir, on va aussi parler des jeux un petit peu rapidement, mais pour contrebalancer cette forme ratée à mon sens, ils ont clairement l'événement entre guillemets, c'était le début des précommandes de la Xbox One X. Il y a eu ce moment là encore un petit peu malaise où il y avait Major Nelson qui a fait un unboxing de la Xbox One X avec les gants blancs, avec les machins. Et c'est marrant parce que je fais la comparaison avec Nintendo, parce que c'était vraiment Nintendo, bah c'est ridicule, peut-être parce que c'est japonais et on sait qu'ils sont un petit peu débiles les japonais de toute façon. Je dis ça avec beaucoup d'amour pour le Japon, hein, mais et donc ça passe quand ils font ça avec les gants blancs, les machins, c'est un petit peu idiot, mais bon. La version Microsoft avec Major Nelson, c'était juste malaisant, moi j'ai trouvé personnellement. Bon, mais à
est-ce
la
que
limite,
c'était drôle au moins, enfin tu vois, est-ce qu'ils faisaient des blagues.
Enfin, non, mais à un moment j'ai ri.
Bah oui, effectivement, je pense que ça décrit bien la situation. Bien joué, Jean.
D'accord. Mais bon, donc il se prenait très très au sérieux, quoi.
Non, bah c'est Major Nelson, tu vois comment il est, quoi. C'était pas très au sérieux, mais c'était genre surtout que toute la communication sur la Xbox One X, c'est genre la console la plus puissante de l'histoire et sentez la puissance dans vos mains, machin. Ce qui est vrai, c'est la console la plus puissante de l'histoire, etc., etc. Mais bon. J'ai trouvé l'ensemble de la conférence, on va pas passer tout l'épisode dessus, l'ensemble de la conférence, franchement, c'était pas le bon ton. Moi, j'ai trouvé qu'au niveau communication, ça fonctionnait pas. Ceci dit, et donc j'enchaîne sur ça pour dire un petit peu de bien de Microsoft quand même, j'ai dit plusieurs fois que la Xbox One X, moi, je trouvais que j'étais pas convaincu qu'elle allait trouver un public large. Je trouve que, en cherchant bien, c'est ce que je disais dans le rendez-vous tech il y a quelques jours, en cherchant bien, on peut peut-être trouver le public de la Xbox One X, c'est les gens qui veulent une machine super puissante, bah c'est comme ça qu'ils la vendent, genre la puissance d'un PC haut de gamme dans une console à laquelle ils vont pouvoir jouer affalé dans leur canapé pour un tiers ou un quart du prix du PC équivalent. Donc j'admets que effectivement c'est bien le cas. Je pensais que c'est le public qui serait intéressé par ce genre de machine était vraiment réduit, voire même plus moins nombreux que les gens qui étaient intéressés par la PlayStation 4 Pro. Et vraiment, enfin, j'en étais convaincu. Et ben, il se trouve que les premiers retours des précommandes de cette Xbox One X aux États-Unis et pas seulement aux États-Unis semblent plutôt positifs, puisque on voit, bon, sur Amazon, c'est le tweet qui a fait le tour de l'internet, le tweet de Daniel Ahmad, qui est un analyste anglais de jeux vidéo, qui est un pote qui vient dans Pixels de temps en temps, mais ça a fait le tour. Ils ont déjà vendu, enfin, en précommande, mais il y a très peu d'annulations en précommande, plus de Xbox One X qu'il n'y a eu de PlayStation 4 Pro sur toute l'année 2017. Donc, wow, ça démarre, voilà. Et c'est pas que aux États-Unis. Donc, il semblerait que Microsoft a vraiment vu un public. Alors, c'est le tout début, hein, c'est quelques jours, c'est les précommandes, c'est le premier Project Scorpio. Moi, je disais, mais enfin, quel intérêt d'avoir une édition spéciale pour un lancement de console, peut-être, mais une mise à jour de console, ça me paraît bizarre. Bah, visiblement, ça se vend comme des petits pains. Il semblerait qu'ils ont vraiment bien ciblé le public, qu'il y a un vrai contingent de gros fans qui attendent ce type de machine. Ça démarre très bien, donc peut-être que moi et d'autres, on s'est planté et qu'il y aura un vrai public pour la Xbox One X qui représentera une part. Pour info, les PlayStation 4 Pro représentent 20% des ventes de PlayStation 4 au total depuis son lancement. Alors, c'est pas énorme. Si la Xbox One X fait mieux, ça pourrait représenter un petit peu plus. Bon, en tout cas, il y a clairement, au lancement au moins, un engouement pour cette console, ce que j'attendais pas, quoi.
Après, la vraie question, c'est est-ce que c'est des gens qui sont déjà acquis, c'est-à-dire des gens qui ont déjà une Xbox qui vont prendre une...
Je pense que c'est essentiellement le cas, oui. Et Xbox, ou au moins des gens qui sont tellement fidèles à la marque Xbox, je pense pas qu'il y ait de nouveaux acquéreurs, ouais.
C'est vrai. Parce que s'ils arrivent à grappiller quelque part de marché à Sony, ça pourrait être carrément...
Je crois que c'est même
carrément
pas le but,
intéressant,
en fait,
pour eux, mais...
Ouais, je crois que c'est pas le but, c'est juste un upsell pour des gens qui sont... qui sont déjà. Alors, ils ont quand même plus d'une centaine de jeux qui sont améliorés pour la Xbox One X. Donc, effectivement, Jean, à défaut d'avoir pu voir ce que ça donnait sur ta télé 4K, bah, tu pourras effectivement avoir la console elle-même, pardon, et avoir plus de 100 jeux qui seront améliorés. Donc, il y a un vrai catalogue. Faudra voir comment ils sont améliorés. Ça sera, je pense, essentiellement du au niveau, enfin, genre des textures et de la résolution et peut-être du HDR, mais bon, il faudra voir, mais voilà, donc il y a un catalogue, ils ont présenté plein de jeux qui seront améliorés pour Xbox One X, notamment au hasard Assassin's Creed Origin, enfin Shadow of War, il y en a plusieurs, évidemment les jeux Microsoft comme Forza Motorsport 7 qui sort à la rentrée, etc. Et bah justement, ça nous donne l'occasion de parler des jeux qu'ils ont évoqués dans cette conférence. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué ? Il y avait donc assez peu d'exclusivité, c'était le problème dont on parlait à l'E3. Il y a eu Record Definitive Edition, je sais pas si qui que ce soit attendait une nouvelle édition de Record, mais bon, elle sera disponible. PUBG, ils ont fait pas mal de pubs dessus, enfin PlayerUnknown's Battleground, avec cette note que on a l'impression que c'est une exclusivité Xbox au lancement. C'est pas confirmé, oui, mais il semblerait que ça soit uniquement...
Et si c'est le cas, ça veut dire que les joueurs de PlayStation vont devoir attendre probablement un petit peu plus longtemps que les joueurs Xbox pour pouvoir mettre la main dessus.
Ça, c'est sûr. Je pense que ça sera une grosse, enfin une exclusivité temporaire, mais assez longue, quoi, parce que vu comment ils en parlent, ça sera au moins 6 mois, 1 an, je crois.
Ouais.
Bon, il y a eu Jurassic World Evolution qui a été présenté quand même, une sorte de roller coaster tycoon, mais dans le monde de Jurassic Park.
Tu peux lâcher tes dinosaures sur les visiteurs. Rien que pour ça, j'adore.
Voilà. Oui, alors qu'est-ce qui vous a... Il y a des trucs qui vous ont parlé dans cette conf?
Oui, enfin moi, il y a un truc qui m'a parlé, c'est Cuphead, qui a une direction artistique absolument folle, qu'on a déjà vu, même si personnellement j'étais pas né à l'époque, mais ce dessin animé, c'est fou, quoi, c'est animé comme alors pour les gens qui savent pas de quoi je parle et qui ont peut-être des enfants, du coup au début des nouveaux Disney, il y a un petit Mickey qui siffle et qui est animé d'une certaine façon, bah ça fait penser un petit peu à ça.
Steamboat Willie, ouais.
Ouais, voilà.
C'est les animations Disney des années 20-30, quoi.
Ouais, c'est ça. Et c'est juste magnifique, quoi. J'en peux plus de l'attendre, celui-là.
Bah, celui-là, je pense qu'il y a effectivement, là, pour le coup, il arrive bah, très, très bientôt, quoi. C'est le 29 septembre.
Mm-hmm. Ouais.
Sur Xbox et sur Steam, entre parenthèses. Ils ont beaucoup poussé le PC, d'ailleurs. Ils ont poussé Mixer, leur service de streaming. C'était beaucoup, beaucoup de marketing, cette conférence. Ils ont beaucoup poussé le PC, j'ai trouvé. Mais donc, Cuphead sera disponible sur Xbox et sur Steam. Mais la plus grosse news pour Cuphead, c'est que on a enfin compris pourquoi il a été décalé depuis tellement longtemps, depuis avant même la naissance de Jean. C'était parce que au départ c'était un boss rush, ce jeu. Il y avait uniquement des boss, et là c'est devenu un run and gun slash shoot them up. Donc il y a vraiment des niveaux à traverser. C'est pas un jeu facile, même s'il y a un mode un petit peu plus facile. Mais donc c'est un vrai jeu complet, quoi. C'est pas juste. Enfin, bien sûr, les boss rush c'est des jeux complets, mais là il y a en plus des boss rush, un jeu des niveaux. C'est un run and gun, c'est un vrai truc plateforme tir entier. Donc ça justifie quand même le retard, je trouve.
Oui, tout à fait. Et surtout, ça va leur ouvrir un public. Parce que moi, quand j'avais vu Cuphead la première fois, c'était à l'E3 il y a 2 ans, me semble-t-il. J'étais super emballée jusqu'à ce que je comprenne que c'était censé être un boss rush. Et là, j'ai fait, je n'y arriverai jamais.
Ouais.
Et là, savoir qu'il y a des niveaux entre, je suis re-hypée à nouveau.
Bah, moi aussi, et surtout qu'ils ont annoncé qu'il y aurait des niveaux de difficulté un petit peu moins élevés. Je pense qu'ils ont vraiment compris que le style graphique et en tout cas le jeu dans son ensemble avait séduit énormément de gens, et je pense qu'ils sont très intelligemment dit si on fait juste un boss rush, qui sont bien sûr, tout le monde le sait, les boss rush sont très, très très difficiles généralement, si on fait juste ça, bah il va y avoir beaucoup de déçus et on va perdre un public potentiel. Donc ils ont retravaillé le jeu entièrement, et je trouve que c'est très intelligent, quoi. Donc voilà, il y avait quoi d'autre ? Il y avait Surviving Mars, qui est le nouveau Paradox, qui ont fait Cities Skylines, qui a l'air assez drôle. C'est aussi une sorte de SimCity stratégie, avec les dangers de Mars, avec un ton très satirique, ou genre, bien sûr, sur Mars, tout va bien, il n'y a aucun problème, c'est très sympa, venez vivre sur Mars. Et évidemment, il y a des catastrophes incroyable.
Oui, j'adore le trailer qui se finit sur sans aucun danger. Et là, tu vois une météorite qui arrive sur la ville.
Voilà. Quoi d'autre? Donc, comme je le disais, Forza. Pardon?
Il y a Crackdown qui a été annoncé comme repoussé.
C'est ça. Ils ont dit d'ailleurs récemment qu'ils avaient peut-être fait une erreur en l'annonçant trop tôt. Je pense que c'est clair. Malheureusement, Crackdown, qui était l'un des jeux qu'attendaient beaucoup de gens sur Xbox, il a été décalé à 2018.
La bonne nouvelle, ça veut dire qu'ils comptent encore le sortir. Alors que moi, je pensais qu'ils allaient l'annuler en même temps que les autres jeux qu'ils ont annoncés comme annulés à l'E3.
Ouais.
Et la bonne nouvelle, c'est qu'apparemment, il est encore vivant. Donc, tant mieux.
Ouais.
Est-ce que quand il va sortir, il va encore intéresser des gens? C'est vrai, c'est ça la vraie question.
Ouais, je crois qu'effectivement, la hype est un petit peu en train de se tarir, mais je préfère ça. Je préfère qu'il continue à travailler dessus pour qu'il sorte bien, plutôt qu'ils le sortent avec la hype, parce que c'est comme, je sais plus qui disait ça, mais c'était sans doute Nintendo, parce que dès qu'il y a un truc de bien, c'est Nintendo qui le dit. Non, je plaisante, c'était un japonais, je crois, mais je sais plus si c'est Miyamoto ou un autre qui est pas de chez Nintendo, mais il disait, quand personne ne se souvient de si ton jeu est en retard, par contre, tout le monde s'en souvient s'il est mauvais.
Oui. Tu vois?
Donc, ou c'est un truc équivalent. Et bien sûr, c'est très vrai. On a revu Sea of Thieves. Je comprends toujours pas. Ça se trouve, ça sera un jeu génial, mais moi, je comprends pas. Shadow of War, pour conclure là-dessus, qui est pas un exclusif, bien sûr, mais quand même, je commence à être un tout petit peu inquiet sur Shadow of War. J'ai assez dit que j'avais adoré Shadow of Mordor, le premier. Et là,
Qu'est-ce qui t'inquiète ? Raconte-nous tout.
Je me dis que j'ai l'impression que c'est un petit peu comme le premier, et que à l'époque, le premier, il était sorti quoi, en 2014, peut-être même fin 2013, je sais plus, je vais vérifier. Et il était bien pour l'époque. Je pense, j'ai l'impression que ça soit un petit peu la même chose, qui est bon, cool, mais en plus de ça, il y a tellement plus de jeux auxquels je veux jouer maintenant que... Ouais, c'était 2014, pardon. Il y a tellement plus de jeux en 2016-2017, il y a tellement de jeux tout le temps auxquels on veut jouer que je sais pas si le fait de refaire un Shadow of War, un Shadow of Mordor, m'excitera autant. Mais enfin, c'est juste une toute petite inquiétude. Hein. Je suis quand même, je vais l'acheter, et je vais y jouer, j'en suis sûr. Mais voilà, j'ai eu ce petit moment de est-ce que je sais pas, on verra. Mais
après, pour avoir discuté avec quelques personnes qui ont mis la main dessus et puis qui ont échangé un peu avec les développeurs, clairement, c'est ils n'ont pas tout refondu. C'est un espèce de 1.5.
Bah, c'est comme une toutes les suites, quoi. On s'en plaint de temps en temps, mais les suites, c'est toujours
ça. C'est une amélioration. C'est-à-dire qu'ils ont identifié toutes les faiblesses, ils ont écouté les joueurs et puis ils ont décidé d'améliorer tout ce qu'en effet était un peu faible. Donc il y a plein de choses qui étaient. Entre autres, il y avait des mécaniques de gameplay qui étaient super cool, mais plus tu t'approchais de la fin du jeu, plus elles étaient visibles. Bon, bah, ils ont bossé un petit peu ça pour que ce soit un peu plus invisible pour les joueurs et puis que ça gagne un peu en profondeur. Et là, je parle des systèmes de Nemesis.
Ouais.
Mais voilà, oui, bah, après, il est super chouette et les gens tous les gens qui ont mis la main dessus ont passé un bon moment et l'ont trouvé plutôt cool.
Ouais.
Après, est-ce qu'il arrivera à se faire sa place sur le marché au moment où il va sortir? Il est prévu pour quand?
Que je dise pas de bêtises, c'est le 10 octobre. Ouais, c'est ça, 10 octobre.
Ouais, ça va peut-être être douloureux de sortir au milieu de tous les jeux de Noël.
C'est vrai. Mais bon, enfin, moi, c'est vraiment une mini-inquiétude qui est irrationnelle, quoi. Je sais à quoi m'attendre et je pense que c'est ce qu'on va avoir, mais bon, tu me rassures un petit peu aussi. Je pense que c'est la même inquiétude, en fait, que j'ai pour Destiny 2. Et Dieu sait que j'aime Destiny. Mais j'ai des petits moments comme ça où je me dis est-ce que ça sera vraiment genre est-ce que mon excitation pour ces jeux est justifiée? Bon bah on verra. Donc je pense que c'est à peu près tout pour Microsoft. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Ah mais non, attendez, je dis une bêtise. C'est parce que c'était pas annoncé pendant la conférence, c'était quelques heures après. Mais vas-y d'Irene, t'as l'air
de Age of Empires 4,
voilà.
Quoi.
Oui.
Ah
ça te laisse sans voix.
C'est à peu près tout ce que je peux dire.
Bon, c'est Relic qui fait Age of Empires 4, donc c'est plus le même développeur, mais enfin quand même, je pense qu'on peut faire confiance à Relic. Le trailer d'annonce, bah c'est juste un trailer d'annonce, on voit rien ni du gameplay ni de rien du tout. Mais quand
mais
même,
c'est
est-ce
juste
que tu peux
une énorme promesse d'épicness, tu vois.
Est-ce que tu peux nous parler d'Age of Empires pour certains de nos plus jeunes auditeurs qui n'auraient peut-être même pas plus jeunes, mais certains de nos auditeurs qui sauraient pas de quoi il s'agit.
Age of Empires, c'est du c'est quoi comme type de jeu? C'est de la
stratégie, quoi.
La stratégie,
non,
ouais.
Oui, c'est de la stratégie. Mais en fait, on gère des empires et je sais pas comment parler de ces jeux. Comment est-ce qu'on peut ne pas connaître Age of Empires?
C'est de la stratégie en temps réel.
C'est gestion.
C'est une sorte entre SimCity et
Valoir.
Bon, enfin bref, oui, les gens connaissent Age of Empires. Mais le 3 était sorti il y a quoi, presque 8 ans, quelque chose comme ça?
J'ai l'impression que c'était il y a plus encore, moi.
Encore plus? Attends.
2005.
2005, oui. Ah, 12 ans Age of Empires. Voilà. Je crois qu'il y a eu des extensions et des trucs comme ça, mais oui, donc les fans sont excités d'avoir le nouveau. C'est le genre de jeu où tu te dis, bon, encore un tour. Bon, encore une heure. Juste un petit peu. Et effectivement, tu passes de très nombreuses nuits dessus. Annoncé, on n'a vraiment pas beaucoup de détails sur le jeu. Donc, je ne sais pas si on peut en dire énormément de choses. Mais oui, c'était clairement un des moments forts. C'est un jeu qui sort sur PC. Donc, voilà, ce n'est pas sur Xbox, par contre. C'est sans doute pour ça que ce n'était pas dans la... Pendant la...
C'est un type de jeu qui a été en plus énormément copié sur pas mal de jeux mobiles, voilà, où où voilà, on vous demande de gérer votre votre petite votre empire, enfin votre, ça ressemble à un village, une ville, un truc, enfin on a des constructions, des buildings, et on gère les productions, et on gère son armée, et on essaie de gagner du terrain. C'est ça, enfin c'est un des piliers de tout un système de jeu, toute une galaxie de jeux aujourd'hui, quoi.
Ouais.
Et je pense à Settlers, je pense à, enfin voilà, il y a plein de jeux qui ressemblent à ça. Mais
j'allais dire.
Age of Empires, comme c'est un des tout premiers, c'est un très vieux jeu, ça reste une énorme référence.
Bien sûr. J'allais dire Civilization pour les trucs un petit peu similaires, c'est... et c'est le nom qui m'a échappé tout à l'heure.
Oui, il y a du brouillard de guerre, il y a du, enfin bref, c'est un classique. Si vous cherchez sur internet Age of Empires, vous tombez sur des images qui vont vous faire penser à tout un tas de jeux, tout un tas de très bons jeux en général.
Donc voilà, c'était la dernière annonce de cette conférence, même si elle n'en faisait pas exactement partie. Donc je pense qu'on peut avancer sur la suite de la Gamescom, avec notamment la conférence EA, qui là encore était pas, il y a vraiment pas eu. Je pense que c'est le cas pour toute la Gamescom. Il n'y a pas eu de grosses annonces de nouveautés, quoi. Et d'une manière générale, parfois, dans certaines Gamescom, on a des annonces de nouveautés. Là, on était très tard dans le mois d'août, donc peut-être que ça a poussé les gens, les développeurs, les éditeurs à moins vouloir annoncer de trucs à ce moment-là, à moins attendre.
Il y a un jeu qui a été annoncé quand même, c'est Anno 1800, tout court. Ouais. Qui a été annoncé juste premier jour de la Gamescom, me semble-t-il.
Oui, bon, c'est pas un énorme jeu, c'est un peu, mais oui, il a ses fans également.
Un classique, dirons-nous. C'est pas.
Voilà. Ouais, mais c'est pas qu'il y a retour, pas eu. Non, vas-y.
Non, mais c'est. Enfin, voilà, c'est ça. Après, moi, c'est les jeux de gestion, c'est un peu, je suis un peu, et du coup, j'ai eu l'impression qu'il y a eu une mini vague parce que les gens étaient plutôt contents du retour aux sources d'Anno, qui c'était les deux derniers épisodes, c'était un peu perdu dans le futur. Ouais, c'est les deux derniers étaient futuristes et ça a pas emballé les fans et cette idée de revenir aux sources qui sont des jeux qui se passent dans le passé, etc. Ça a créé une mini hype dans ma bulle internet à moi.
Non, mais c'est sûr. À vrai dire, peut-être que je décris pas bien la Gamescom en disant qu'il y avait pas grand chose de grosses annonces et de trucs excitants, parce que enfin, c'est évidemment un salon comme ça, c'est l'occasion pour plein de développeurs et d'éditeurs de montrer leurs jeux et de parler de leurs produits. Et il y a eu plein de petits trucs, à tel point qu'on ne peut pas parler de tout ce qui s'est passé à la Gamescom. Et je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui vont dire « Ah, mais s'il y avait ça et ça et ça ». Oui, mais le Rendez-vous Jeu, c'est une émission où on parle de la culture jeu vidéo dans son ensemble, un petit peu grand public, on va dire. Et donc, si on devait commencer à parler de tous les, entre guillemets, petits jeux qui ont été dont on pourrait parler, l'émission devrait durer 8 heures, quoi. Donc, c'est un petit peu compliqué.
En fait, c'est souvent l'occasion pour les éditeurs de donner plus d'informations sur des jeux qu'ils ont juste teasés à l'E3.
Exactement.
C'est-à-dire qu'à l'E3, ils font les annonces, et à la Gamescom, ils rentrent dans les détails un peu techniques, qui du coup, si on n'est pas vraiment intéressé par le jeu, passent un peu au-dessus. C'est ce qui s'est passé aussi un peu avec Blizzard, par exemple, comme d'habitude, leur vidéo était folle, mais ils ont surtout annoncé des trucs assez détaillés, et si t'es pas fan du jeu en question, ça te laisse un peu de marbre, quoi.
C'est ça, ouais. Bon, on va en venir à Blizzard tout à l'heure. On en parlera un tout petit peu. Mais alors justement, revenons à EA. Ils ont parlé de l'extension Dogs and Cats pour The Sims 4, qui, je pense, a été une petite explosion de joie dans la communauté de Sims. Ceci dit, si je jouais à The Sims, je crois que ces petits chats qu'on peut customiser comme on veut, ça serait une sorte de plaisir intense, quoi. Ils étaient hyper mignons. Et il va arriver sur PS4 et Xbox One.
Les éditions avec les extensions avec les animaux, on sait que elles sont très, en général très bonnes dans The Sims.
Battlefront 2, ils ont montré le combat spatial. qui a l'air assez cool. Encore du contenu pour Battlefield 1. Enfin, ce jeu, il meurt jamais, quoi. C'est incroyable le suivi qu'ils ont fait sur Battlefield 1. Et enfin, voilà. La conférence E3, je pense qu'elle était encore plus... comment dire, passable que la conférence Microsoft, en ce sens qu'il n'y avait pas grand chose de super intéressant, à moins que vous ayez retenu des choses.
Je ne sais pas comment parler de ce jeu.
Non, je crois que c'est fait, ça se lit fait. Oui, alors celui-là, je pense qu'effectivement, c'est l'un des jeux qui a séduit l'ensemble de la Gamescom. Un jeu, c'est EA Originals, je crois. Je sais plus quel est leur label pour les jeux similaires.
Si c'est Original. Ouais.
Alors, bah, tu peux peut-être nous en parler justement, Dyrène.
Le truc qui est marquant sur ce jeu, c'est la direction artistique, l'esthétique du jeu qui est fait avec des polygones. Enfin, comment décrire? Parce que en fait, c'est très joli. Alors, si je vous dis que c'est fait avec des polygones, vous allez avoir des images pas terribles, mais c'est très anguleux et en même temps, c'est des aplats avec plein de couleurs. Il y a un côté, c'est un espèce de. Si vous voyez la direction artistique de Patapon, c'est un peu ça en 3D et très coloré. Et ça a l'air d'être excessivement mignon, surtout ça a l'air féerique, voilà. Oui. C'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Il y a quelque chose de très féerique et de très onirique dans leur direction artistique et même dans ce qu'ils présentent du jeu, en fait.
Moi, ça me fait un petit peu penser à Ori and the Blind Forest.
Ouais, moi aussi.
Carrément.
Ouais.
Donc, et je crois, je pense qu'on peut même dire que c'est le Ori and the Blind Forest de EA. Je crois qu'il y a cette intention de se dire oui, ben nous aussi on peut faire de l'indé. Et le plus surprenant dans tout ça, c'est encore une fois, comme je le disais, je crois que tout le monde à la Gamescom a été séduit, quoi. J'ai pas vu un seul article qui aurait pu dire voilà, c'est du simili indé, mais ça fonctionne pas ce machin. Tout le monde dit ah ouais, c'est super, c'est enchanteur. Donc et en plus le jeu a l'air de fonctionner au niveau gameplay aussi, donc que demande le peuple, quoi. C'est effectivement un truc à mentionner, très certainement. Un autre truc de EA, Jean, ou enfin je demande non, un petit peu l'impossible là, parce que à moins que tu sois fan des jeux de sport, mais
non,
d'accord, très bien. Donc oui, pardon.
Vous voulez pas parler un peu de sport, par exemple, non?
Ah ben on pourrait. Moi je suis vraiment pas fan de jeux de sport, mais vas-y.
Ben moi non plus, mais j'essaie de vous tendre des perches.
les jeux de sport, c'est toujours le même problème, quoi. C'est le genre de truc où c'est les mêmes qui viennent tous les ans. Et puis, enfin, je crois que le NFL a un mode histoire qui a l'air de séduire les gens. C'est genre, ah non, c'est le jeu de basket. Je sais plus comment il s'appelle.
NBA 2K.
NBA Live ou je sais plus.
Ouais.
Qui a un mode solo qui visiblement est un mode histoire qui est hyper bien écrit et c'est vraiment l'histoire de c'est genre un mode solo qui a l'air d'avoir de valoir le mode solo, quoi. Donc bon, je sais pas, mais à part ça, hormis la perche tendue d'Irène, je sais pas ce que je peux dire de plus des jeux de sport, parce que c'est toujours les mêmes, c'est toujours le même problème.
Oui, mais c'est pas moi qui vais t'aider. Hein.
Ouais, je pense qu'il faut être très, très. Enfin, faut vraiment suivre l'actu de ces jeux en particulier. C'est comme un MMO, quoi. Si tu parles de la nouvelle extension de World of Warcraft, quand il y en a une qui est annoncée, moi, je pourrais t'expliquer tout dans les détails. Mais c'est parce que j'aime World of Warcraft. Je crois que les gens que ça intéresse pas sont moins clients, quoi. Donc,
Alors après, d'un point de vue purement factuel, sur le stand de, enfin sur la partie EA, Boost EA, accessible aux consommateurs, au niveau déco, ils avaient mis le paquet. C'était vraiment hyper chouette. Il y avait une espèce d'énorme arche pour Need for Speed avec des voitures dessus.
Ils ont remontré effectivement ces Payback, Need for Speed Payback,
ouais.
Qui est vraiment, comme on le disait les autres fois. Fast and Furious, Need for Fast and Need for Furious, quoi.
Voilà, et puis au fond, il y avait Battlefront avec le X-Wing, la garde impériale. Bref, niveau déco, c'était ça pulsait grave. Et puis leur jeu de foot, là.
FIFA.
FIFA, merci. Oh là là, la fatigue. pareil, un énorme mur de FIFA. Voilà, le côté EA était très flamboyant.
Ouais, bah FIFA, c'est sûr. Enfin, c'est le genre de jeu dont on parle pas forcément beaucoup, mais enfin, c'est le gros des ventes, quoi. C'est les jeux de sport et FIFA en particulier, on le sait bien. C'est un petit peu comme Call of Duty à l'époque. Voilà, il y a ces fameux joueurs qui jouent à deux jeux dans l'année, Call of Duty et FIFA. Et ils sont très 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 nombreux, donc oui, effectivement. Peut-être qu'il faudrait faire un spécial jeu de sport un jour dans le rendez-vous jeu.
Il faudra que tu invites des spécialistes, du coup.
Oui, je sais, il faudra qu'ils m'expliquent comment tout ça marche. Mais n'étant déjà pas super fan de sport dans la vraie vie, je crois que c'est ça le problème. Les vrais fans de jeux de sport sont fans de ce sport dans la vraie vie. Et comme le sport, c'est pas forcément mon truc... Mais est-ce qu'il y a d'autres stands qui t'ont marqué, si t'as eu le temps de faire un petit peu de tour?
En fait, moi, j'ai eu le temps de faire un seul hall sur trois.
Ah, hélas.
Donc voilà, j'ai vu EA, donc le hall où il y avait EA, il y avait aussi Square Enix, avec les fans de Final Fantasy. C'est-à-dire que même pendant la journée presse, il y avait pas mal de cosplay et pas mal de gens qui étaient là pour Final Fantasy. Et puis Ubisoft, voilà, c'était les trois trucs que j'ai pu voir. Ouais. Et Ubi, j'ai été impressionné par la quantité de gens qui avaient à attendre Mario Lapin Crétin.
Oui.
Parce que ça reste un jeu de niche et que du coup, enfin voilà, ce jeu-là, c'est du stratégie tour par tour. Et que moi, c'est comme XCOM. Je pense, pour moi, c'était vraiment de la niche. Et le mélange Mario stratégique, ça a l'air de marcher. Alors c'est toujours la magie Nintendo qui arrive à casualiser des trucs qui sont assez pointus en général. Voilà, ça a l'air de marcher, c'est génial.
Oui, bon, je pense que ça te rend particulièrement content.
Et oui.
oui, bah c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendent et puis il sort bientôt là, c'est dans quelques jours.
Le 29, ouais.
Voilà.
Je crois que c'est le même jour que XCOM et là ma vie va devenir très très compliquée.
qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire un truc à un moment et puis j'ai oublié. Tu parlais de... Ah oui, Final Fantasy, il y a un truc hyper bizarre qui a été annoncé, c'est le Assassin's Festival dans Final Fantasy XV, qui est un DLC avec Assassin's Creed dans Final Fantasy XV. Mmh. Le truc improbable. Et
Je suis complètement passé à côté de ça.
C'est vrai, t'as pas vu ça? Pourtant,
ah,
tu devrais savoir.
Mais oui.
Bah écoute, et ça a l'air de bizarrement fonctionner, quoi. C'est vraiment le truc improbable, mais voilà. Donc vous pouvez aller regarder Assassin's Festival dans Final Fantasy XV. Il y a, tu peux, enfin bref, c'est Assassin's Creed dans Final Fantasy XV. Bizarre. Donc voilà, c'était, je crois que c'était hier qu'on a entendu parler de ça.
Très bien.
Un autre truc, tiens, puisqu'on parlait de Nintendo, il y a un nouveau personnage dans Arms qui a été teasé. Bon, j'avoue que Arms, à chaque fois que je dis ça, les gens me tombent dessus, mais je pense que Arms, c'est un petit jeu marrant, mais enfin, c'est pas Splatoon, quoi. Splatoon a fait énormément de bruit et reste un énorme succès. Je pense que Arms, on en entend déjà beaucoup, beaucoup moins parler. Mais par contre, ça, Nintendo est en train de généraliser leur idée de suivre les jeux sur la longueur et plus simplement de les sortir et puis c'est terminé. Enfin, ça fait un moment qu'ils les suivent sur la longueur. Mais là, donc, Arms y compris, il y a des nouveaux personnages qui arrivent. Donc, bonne nouvelle pour les fans du jeu, quoi.
Ouais. Après, moi j'ai discuté avec pas mal de développeurs et de gens et en fait la Switch est en train de réussir de mon point de vue à moi ce que la Wii U n'a pas réussi, c'est-à-dire convaincre les développeurs externes que ça vaut le coup de s'investir sur la Switch, parce que j'ai croisé énormément de développeurs qui m'ont présenté des jeux, des petits jeux indés sur PC et qui m'ont dit on est en train de réfléchir à le porter sur la Switch.
Mmh. Bah écoute, c'est effectivement une confirmation de ce qu'on ressent depuis la sortie de la console. C'est non seulement une réussite pour Nintendo, contrairement à la Wii U, bon, ça c'est plus à prouver, mais en plus elle est en train de se faire une place particulière dans cette industrie.
En fait, c'est hyper bizarre parce que l'appel d'air qui s'est pas fait sur la Wii U, c'est-à-dire au lancement de la Wii U, il n'y avait pas de catalogue et personne n'y a été. Là, le catalogue de la Switch est pas, forcément, elle vient d'être lancée, donc le catalogue est pas fou et tout le monde a envie de s'y engouffrer pour se placer dès le début. Donc, je sais pas ce que Nintendo a réussi.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En termes de communication aussi, c'est l'extrême engouement des joueurs,
c'est les ventes tout bêtement. Ils vont faire autant de ventes sur la première année ou presque qu'ils ont fait sur toute la vie de la Wii U, quoi. Il y a ça d'une part, et puis ce dont on parlait au moment de la sortie, le concept fonctionne. Le concept de la Wii U n'a jamais convaincu personne. Tu la prenais en main, c'était bizarre. La mablette, ça marchait pas. Elle était trop grosse. L'écran était moche. Il servait à rien, machin. Là, au-delà des ventes, il y a en plus le fait que la console est cohérente au niveau matériel et au niveau expérience d'utilisation. Donc, je pense que l'enthousiasme existe des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a un enthousiasme niveau marketing parce qu'elle se vend bien et donc tu penses que tu vas faire des ventes. Et en plus, il y a un enthousiasme sincère niveau utilisation et développement où les gens se disent cette console est cohérente à utiliser, quoi. Je pense.
Mais elle était bien la Wii U quand même. Alors, je crois que le catalogue.
Il y a des bons jeux sur la Wii U. Ça ne veut pas dire que la Wii U est bien. C'est deux choses extrêmement différentes. Mais les auditeurs qui écoutent l'émission depuis quelque temps le savent, Super Mario 3D World est l'un de mes jeux préférés de toute l'histoire de Nintendo. C'est pas une liste courte, donc.
Après, moi, je suis peut-être pas objective, mais quand t'as des enfants, la Wii U, c'est quand même vachement bien.
Oui, bon, ça, c'est une autre considération, c'est sûr, ouais. Effectivement.
Tu peux leur confier sans avoir peur qu'ils la cassent. C'est déjà énorme. Contrairement à la Switch, par exemple.
C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, les enfants ne jouent plus que sur téléphone et tablette, non ? C'est pas ça, là.
Pas chez moi, en tout cas.
Non,
parce que je tiens
plus,
beaucoup à ma tablette et à mon téléphone.
Elle joue sur PC.
Ah, très bien, très bien. Jean est une personne de qualité. On a vu aussi un nouveau niveau de Super Mario Odyssey, le niveau de la cuisine. Qui était, bon voilà, c'est un nouveau Mario, Super Mario, un nouveau niveau pour Mario. Je vous avoue que j'ai pas passé énormément de temps à regarder les 20 minutes de Hands-On. J'ai presque plus trop envie de regarder ce qui se passe dans Mario pour être surpris quand il va sortir. Parce qu'il arrive bientôt, quoi. Et il fait partie, il fait partie de ces jeux de la fin d'année, et c'est genre, je regarde tous les jeux qui vont sortir en octobre-novembre, et je me dis, il y a tellement de trucs auxquels il va falloir jouer, auxquels je vais vouloir jouer, et après je regarde un petit peu du côté de Nintendo, je me dis, et il y a même Mario en plus, quoi. C'est, enfin bon, bref. Donc voilà, pour Nintendo, il y a eu, comment décrire ça ? Le nouveau trailer de Shenmue 3. Est-ce que vous l'avez vu, ce trailer ?
Ah, celui qui date de 2010.
Alors, on parlait de cynisme des Français. Je crois que c'était pas que les Français, pour le coup. Alors, comment décrire ce trailer ? Shenmue 3, l'un des jeux les plus, le jeu le plus kickstarté de l'histoire des jeux vidéo, s'il n'a pas perdu son titre, je crois pas qu'il l'ait perdu. Graphiquement, il est effectivement en 2010, je pense que c'est pas trop exagéré de dire ça. Mais le choix le plus étrange, c'est que Yu Suzuki, le créateur et le directeur du jeu, a décidé un mois avant la sortie du trailer de retirer les animations faciales du jeu.
C'est rassurant. C'est rassurant de savoir qu'il les a retirées. Ah non, mais non, si, parce que tu vois, quand tu regardes le truc et que tu vois les animations faciales, tu fais...
Il
n'y en a pas. Mais du coup, savoir qu'il les a retirées, c'est rassurant.
D'une certaine manière, oui.
Voilà, ça te donne un peu d'espoir pour la suite.
Le truc, c'est que au-delà de ça, le jeu est moche. Et puis surtout, pourquoi ? Soyons honnêtes. C'est un jeu de la génération précédente, non ? Ou alors c'est une impression, mais enfin vraiment.
Moi, je suis hyper indulgente, mais.
Parce que c'est Shenmue et que t'attends la suite de Shenmue, c'est ça ?
Oui, parce que oui, ça c'est sûr, mais aussi parce que j'oublie souvent à quelle hauteur ils ont été kickstartés et que quand tu remets ça en contexte, ça fonctionne moins bien. Mais ça fait longtemps qu'ils bossent dessus, donc forcément il est pas aussi beau que tous les jeux qui sont annoncés maintenant et qui ont une force de frappe, qui derrière eux ont des éditeurs avec une force de frappe beaucoup plus puissante qui permettent de sortir des trucs beaucoup plus jolis. Je me dis que Shenmue aurait pu être plus moche que ce qu'ils nous ont montré quand même.
Admettons, oui.
Je me suis dit avec un peu de mauvaise foi, enfin bonne ou mauvaise foi, je sais pas, que c'était peut-être aussi indirectement volontaire de garder ça comme ça pour ne pas trahir l'esprit de ce qui avait été fait précédemment. Parce que si tu le transposes avec des visuels à la pointe, du coup, tu risques de trahir la fanbase qui est énorme et de dire que non, lui, c'est plus mon héros. Parce que c'est vraiment sur les personnages qu'il y a un problème.
Oui, non, mais je suis d'accord. Ils sont effectivement assez fidèles. Enfin, une évolution de ce qu'on connaissait à l'époque. Moi, je crois que c'est plutôt dû au fait que, comme l'évoquait Diraen, ils sont dans une position intermédiaire inconfortable où ils ont eu énormément d'argent pour un Kickstarter, mais évidemment pas du tout assez d'argent pour faire un jeu de l'ambition d'un gros open world comme Shenmue. Donc c'est compliqué, quoi. Je sais pas comment ils vont réussir à s'en sortir. Je pense que le résultat sera effectivement fidèle à ce qu'on est en train de voir maintenant, c'est-à-dire un truc qui n'a pas le léché des grosses productions AAA de cette industrie en général. Mais qui sera pas non plus un indé qui est fabriqué avec 3 francs 6 sous et de l'huile de coude, quoi. Donc ça sera un truc un petit peu entre deux chaises, avec le cul entre deux chaises, et je crains que ça va satisfaire les super méga fans, j'espère, qui attendent la suite de Shenmue 2 depuis 15 ans, mais...
Alors que moi je suis convaincu qu'on sera déçus, mais on sera quand même content. On sera des déçus heureux, tu vois.
Ouais, déçus du jeu, mais content qu'il existe, quoi.
Tu vois, moi, le premier truc qui m'a frappé dans le trailer, c'est que il n'y a plus aucun environnement urbain, quasiment. Alors que c'était quand même une des composantes principales de Shenmue, c'est que tu passais énormément de temps dans la ville, et là, il n'y a que des décors extérieurs.
Bon, peut-être qu'ils sont en train de travailler sur les décors urbains et qu'on les verra ensuite.
Écoute, moi j'espère qu'ils sont en train de travailler sur les animations faciales, les animations corporelles, parce que les personnages ont quand même l'air d'avoir des petits problèmes de motricité, et puis les environnements urbains, ça fait beaucoup de boulot quand même.
Mais c'est ça le problème, c'est un jeu tellement ambitieux. Bon, écoutez, on verra ce qui se passe. Moi je suis assez pessimiste sur Shenmue 3, mais on verra. Un truc par contre sur lequel je suis assez optimiste, c'est Dragon Ball FighterZ, ce nouveau trailer avec les androïdes cyborgs C16, C17 et C18 qui sont présents dans le jeu, Ce trailer, donc, n'est guère que l'occasion pour moi de redire à quel point ce jeu a l'air incroyable, parce que c'est pas vraiment différent de ce qu'on avait vu à l'E3. C'est juste un plaisir coupable d'adolescent de voir Dragon Ball FighterZ être aussi beau, voire plus beau que les dessins animés de l'époque. Il sort toujours en février, mais voilà, c'est juste la confirmation que c'est un des jeux que j'attends comme... je pense qu'il va être sympa à jouer, mais à la limite, ça a assez peu d'importance. C'est juste le kiff de jouer un dessin animé Dragon Ball comme est le dessin animé, quoi.
Et mieux animé.
Et mieux animé, effectivement.
Mais ouais, ouais.
Entre parenthèses, il y aura d'ailleurs une partie de l'histoire qui explorera la timeline alternative du monde des androïdes dont revient Trunks quand Trunks apparaît. Et là, on se rend compte que quand je disais il y a certains jeux pour lesquels seuls ceux qui sont vraiment intéressés par le jeu savent de quoi il s'agit. à cette Gamescom, bah là clairement on est dans cette catégorie où ceux qui sont intéressés par Dragon Ball FighterZ et Dragon Ball en général se disent ah ouais trop fort super on va enfin savoir comment ça s'est passé, et tous les autres auditeurs qui s'en foutent se disent mais t'aurais pas pu parler de FIFA ou t'aurais pas pu parler de tel jeu ou...
Après là enfin. Moi tu viens de dire le monde des androïdes duquel revient Trunks et soudain j'ai envie de jouer au jeu.
Ah bah tu vois. Voilà. Ouais,
parce que moi je suis pas très jeu de fight. Alors le truc qui est cool avec Dragon Ball, c'est que ça va être pour une fois un jeu qui va être cool à regarder, parce que comme vous disiez, il ressemble vraiment au dessin animé. Mais en plus, bon, alors ce truc-là, ça m'intéresse pas mal. Après, tous les gens qui ont mis la main dessus ont eu beaucoup de mal à se. Bah, ils sont tous fait virer du stand en fait. Ça suffit, oui. Monsieur. Maintenant, faut partir.
Oui.
Bah, après, c'est l'équipe de Guilty Gears.
Oui, tout à fait.
C'est
Arc System Works.
C'est ça, ces gens savent aussi faire du jeu de combat, donc
pour moi. Je pense qu'il y a peu d'inquiétude au niveau gameplay, ouais. Ouais. Effectivement.
Et par contre, je suis tombée sur un fan qui m'a expliqué l'importance du mode 3 versus 3 pour l'équilibrage des persos, bref. Ça a l'air d'être fou.
D'accord. Oui, c'est 3v3 et c'est Marvel versus Capcom Infinite qui passe en 2v2, donc c'est bien ça.
Ouais.
Ouais. Quoi d'autre alors il y a un autre jeu qui a particulièrement marqué les esprits, c'est My Memory of Us, qui est un jeu un petit peu c'est un jeu indé qui est genre, c'est un mélange, enfin visuellement, entre Inside Limbo et This War of Mine. C'est vraiment un truc un petit peu bizarre, genre je crois que c'est puzzle plateforme, enfin un truc visuellement assez intéressant, qui est, c'est noir et blanc et rouge, et c'est cette ambiance This War of Mine, où ces deux enfants qui sont dans un contexte de guerre et qui essayent de se retrouver. C'est, ça a l'air là aussi un petit peu comme fait Enchanteur, mais Enchanteur d'une manière un petit peu plus déprimante peut-être.
Oui, je pense que tu t'extrais pas de la réalité et du quotidien lourd et pesant de la même façon avec ce genre de
ça.
Jeu. Hein,
c'est genre, c'est un conte, mais un conte qui est pas joyeux, quoi.
Mmh. Voilà. De ce que j'en ai vu, ça nous replace à Varsovie, je crois. Donc pendant la Seconde Guerre mondiale, mais tout est métaphoré entre guillemets. Où il n'y a pas de nazis, c'est des robots, mais ça y fait penser fortement. Et comme dans Soldats inconnus, Mémoire de la Grande Guerre, il n'y a pas de violence. La pire violence qu'on voit, c'est de tirer sur des robots avec des fléchettes en caoutchouc. Donc,
Par les enfants, quoi.
Voilà, et visuellement, je rajouterais aussi, ça me fait penser aux productions 2D Boys, ceux qui ont fait World of Goo.
Ouais, il y a un peu de ça, ouais.
Ouais, il y a de la rondeur et ce travail du gris qui est présent aussi.
Effectivement. Donc voilà, c'était l'un des jeux qu'on pouvait évoquer quand même, l'un des jeux qui a été marquant.
Il y a une date de sortie pour My Memory of Us ou...
J'ai pas l'impression, attends que je te dise pas de bêtises, c'est vraiment l'un de ces jeux, l'un de ces jeux, l'un des petits jeux qui a sorti la tête du lot, quoi. Là encore, je suis sûr qu'il y en a d'autres. Mais alors, attendez, que je dise pas de bêtises. Non, je vois pas de date de sortie. Peut-être qu'il y en a une. Je vous avoue que je suis pas certain.
Ok.
Mais voilà. Donc, il est effectivement l'un des jeux qui a marqué les journalistes qui ont eu l'occasion de mettre la main dessus. Et c'est un tout petit truc, quoi. C'est un tout petit développeur. Je pense que pour eux, ça a été pour vous donner.
Ils sont polonais.
Ouais. Et pour vous donner un exemple, sur le site, sur le compte Twitter de My Memory of Us, ils ont 147 followers. Ils n'ont pas de lien vers un site web. Et j'ai pas l'impression. Ah si, alors voilà, ils ont un site web, mais ils n'ont même pas le lien sur le compte Twitter, quoi.
Ils ont combien de followers, celui ?
147.
Mais c'est pas possible.
Mais et oui, c'est vraiment un tout petit truc, quoi. Donc, bref, voilà, c'est le genre de truc qui est possible à la Gamescom, où les gens peuvent justement découvrir des petits jeux de ce type-là au milieu des très nombreux AAA, très nombreux AAA qui envahissent le salon. Donc, il y a de belles histoires comme ça également. D'autres jeux qui vous ont marqué, je pense que. Bon, il y a une édition anniversaire 10 ans de BioShock pour $200, si ça vous intéresse. La SNES classique a des fonctions retour en arrière et save state pour pouvoir sauver les jeux, ce genre de choses. Il y a un hub dans Call of Duty World War 2 qui est un hub qui s'appelle le Headquarters, où les joueurs peuvent se retrouver et faire des combats un contre un, faire de l'entraînement en visant sur des cibles, enfin genre un hub social dans World Call of Duty, mais où va le monde?
Ouais.
D'autres choses qui vous ont marqué avant qu'on...
Alors, il me semble, je sais pas si ça a été annoncé pendant la Gamescom ou juste avant, moi c'est surtout, moi j'ai été marqué par l'annonce de la nouvelle 3DS XL Super Nintendo.
Ah oui, oui.
Quand on parlait voilà. De trucs qui n'intéressent que les fans, effectivement, vas-y. On a entendu voilà, mon soupir, tout. Non
c'est, oui, oui. Non, mais voilà, c'est tout. Tu parlais de SNES, donc ça m'a fait penser à ça.
Ouais. Mais voilà. Non, mais du coup, non, mais vas-y.
En fait, mais expliques. Personnellement, je suis hyper contente parce que moi, j'ai toujours pas
t'es pas la seule.
3DS. Je suis encore sur l'ancien modèle et donc je n'ai pas les fonctionnalités de NFC alors que j'ai plein d'amiibo. C'est très très frustrant. Mm-hmm. Et en fait, j'ai jamais trouvé les collectors XL New 3DS jolis. Et là, c'est la première que je vois qui me plaît.
Ouais. Ouais. Bon, c'est juste qu'elle a un look de Super Nintendo, quoi.
C'est ça.
Ouais, grise avec les boutons jaune, rouge, vert, bleu.
Voilà. Et d'accord. Du coup, si vous avez commandé la SNES classique, ça peut faire une jolie collection.
D'accord. Très bien. Bah effectivement, je soupire, mais je sais qu'il y a plein de gens qui l'attendent avec impatience et de collectionneurs qui l'achèteront avec plaisir. Quoi d'autre? Parlons un petit peu de Blizzard, justement. Qui avait quelques annonces dans la catégorie ça vous intéresse si vous aimez les jeux. Il y a un nouveau perso dans Heroes of the Storm, il y a une nouvelle carte dans Overwatch, la carte de Junkertown qui est très inspirée par Mad Max, ce qui moi me plaît forcément. Ils ont détaillé le patch 7.3 pour World of Warcraft, la fin de l'histoire de Légion, mais enfin c'est la folie. Alors, on va aller sur Argus, mais vous vous rendez pas compte. Là je channel mon inner Danny, mon comparse de World de Azeroth.fr, le podcast avec lequel tout a commencé. C'est ah mais c'est fou, c'est comme ça qu'il a répondu Danny. Et sinon il y avait alors un film court, enfin un court métrage animé pour Junkertown d'une part qui est très drôle, qui est avec une sorte de moteur in-game, et un court métrage un vrai court métrage entre guillemets qui est centré sur le personnage de May, qui est là encore la qualité des courts métrages Blizzard n'est plus à prouver.
Techniquement, c'est top au niveau de la narration. Je pense qu'ils ont encore une petite marge de progression.
Ouais, t'as pas aimé celui de May?
En fait, c'est censé être un court-métrage assez émouvant. Et pourtant, je suis très très bon public. Hein, j'arrive à pleurer devant des publicités. Mais là, j'ai pas été.
Ça t'a pas parlé.
J'y ai pas cru en fait, les transitions, les transitions émotionnelles et du personnage sont rapides. Après, ça reste un court métrage, mais
Et qui fait quand même 10 minutes. Hein, c'est le plus long qu'ils aient fait. Pourtant.
Mais par contre, comme à chaque fois que je vois une cinématique, un court métrage Blizzard, je me dis mais faites des trucs longs, les gars. Vous savez faire, voilà. Plus, on en veut plus.
Ouais. Bon, j'aurais beaucoup de choses à dire moi sur tous ces trucs-là, mais le truc que je vais évoquer parce que ça dépasse un petit peu le court-métrage, c'est ce court-métrage sur Hearthstone, Hearthstone, les deux prononciations sont valides, qui est pour le coup un vrai court-métrage, qualité Disney Pixar machin. Où on a, alors traditionnellement les courts-métrages pour les présentations pour ce jeu sont des trucs avec des images fixes animées. C'est ce style qui a été, je pense, initié par Blizzard avec Hearthstone et que beaucoup de gens ont repris depuis. C'est un moyen de faire des petites animations sympas à moindre frais. Là, c'est une vraie cinématique qui dure 5-6 minutes. Où, je vous résume pour ceux qui l'ont pas vu, il y a une petite fille qui est perdue dans la forêt, il neige, elle a froid, elle sait pas où elle va aller, il y a la petite souris de Hearthstone qui arrive, qui lui file une boîte de Hearthstone, le moment où elle la touche, elle est transportée dans l'auberge de Hearthstone, et il y a plein de personnages super marrants qui sont, colorés, c'est marrant, ils se mettent à chanter, ils lui apprennent à jouer à Hearthstone, et au final, elle joue, elle est contente, et elle est sauvée, et c'est
en général,
la célébration d'Hearthstone.
Et là, tu te dis, je croyais que je regardais un truc Blizzard. Pourquoi je suis chez Disney?
C'est vraiment, vraiment ça. Et justement, je voudrais vous poser la question. C'est une nouveauté pour le jeu Hearthstone. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi ils ont fait un truc comme ça? Parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont hardcore Hearthstoneurs qui vont se dire, mais enfin, c'est quoi ce truc de débile, de casual, machin? Moi, j'ai ma petite idée, mais qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, au niveau stratégique de ce court-métrage? Jean, qu'est-ce que t'as, enfin, n'importe qui, peut-être que vous en pensez rien.
Le style, enfin, moi, c'est déjà ce que je reprochais à Overwatch. C'est le même style graphique qu'Overwatch, mais encore en plus poussé cartoon. Je suis pas fan moi, mais je vois. Enfin, ça va permettre de mettre. Alors, ils vont pouvoir mettre en place toute une histoire autour d'Hearthstone avec ce personnage, la petite fille qui s'appelle Eva. Enfin, je crois. Hein.
Ava.
Ils vont encore essayer d'étendre leur tentacule un petit peu au-delà des voilà, au-delà des quelques dizaines de millions de joueurs d'Hearthstone, pour peut-être arriver à toucher les plus jeunes, arriver à toucher encore plus de casual. Mais après, c'est le début d'un truc, je pense, mais on ne sait pas trop quoi.
D'accord, effectivement. Je m'aligne un petit peu, je vais détailler, mais...
J'ai vu ce court-métrage comme un espèce de « Hey, vous vous souvenez les gars, à la base c'était censé être un truc hyper casu, c'est devenu de l'e-sport et il faut pas qu'on oublie d'où on vient. » Et donc le but c'est de revenir aux sources, de rattraper les casus entre autres, mais aussi de rappeler que Hearthstone, malgré tout le sérieux qui s'est quand même installé autour de cette licence avec entre autres l'e-sport, etc. Ça reste quelque chose de léger, de fun. Enfin, la fin du court-métrage où l'orque est prêt à taper la petite fille et qu'il y a l'aubergiste qui fait respect. Il y a quelque chose qui fait. On n'oublie pas que Hearthstone c'est léger et on va remettre de la légèreté, de la légèreté sur la licence.
Je suis assez d'accord.
J'ai été même jusqu'à me demander s'ils n'allaient pas splitter un Hearthstone.
Hearthstone pour les enfants et Hearthstone pour les hardcore.
Alors peut-être pas à ce point-là, mais tu vois une itération de Hearthstone qui serait différente. Je sais pas du tout, mais ça m'a traversé l'esprit, on va dire.
Le fait que le personnage principal soit un enfant et une fille, il y a quand même une volonté d'ouverture en fait.
Ouais. Ben, je pense effectivement qu'il y a bon, d'une part, avec les dizaines et les centaines de millions que fait Hearthstone, ils mettent enfin un petit peu d'argent dans une promo d'une manière différente. Mais oui, je crois qu'ils ont, d'un point de vue purement marketing, ils ont épuisé leur potentiel d'acquisition chez les joueurs classiques d'Hearthstone. C'est-à-dire, je pense que tous les joueurs classiques qui auraient pu être intéressés par Hearthstone l'ont au moins essayé aujourd'hui ou se sont posé la question « est-ce que je devrais voir ce que c'est ?» Donc, je pense qu'ils ont plus vraiment un gros potentiel de croissance chez les joueurs traditionnels. Et donc, avec cette orientation, et je pense que c'est que le début, ils ont dit qu'on allait retrouver les personnages de ce trailer dans d'autres aventures, des BD, des trucs comme ça. Donc, il y a une volonté de créer leur propre univers en parallèle de World of Warcraft, mais vraiment un univers spécifique à Hearthstone, dans une bulle dans World of Warcraft. Et je crois qu'il y a aussi, effectivement, comme vous le disiez tous les deux, la volonté d'aller chercher un petit peu ailleurs en se disant les joueurs qui jouent plutôt sur mobile, par exemple, parce que bien sûr, le jeu est disponible sur mobile, les joueurs qui jouent plutôt sur mobile, qui sont des joueurs de Candy Crush, de ce genre de trucs, il y a des joueurs qui jouent à des jeux de manière intensive, quoi. Il y a plein de jeux mobiles qui sont pas des jeux sur lesquels on va juste jouer quand on est dans le bus. Il y a plein de jeux où on va passer 2, 3, 4 heures sur son mobile chaque jour avec ses trucs à énergie, les free-to-play, etc. Et donc, je me dis, ces gens-là pourraient être intrigués par un trailer comme celui-là. Ils se disent, ah ouais, ça a l'air sympa, ça a l'air marrant, ça a l'air enchanteur. Enfin, c'est vraiment une autre approche. Vous savez, tous ces jeux où il y a les personnages qui vous montrent, ah, vous, voilà au niveau 10, voilà au niveau 20, voilà au niveau 30. Je pense que c'est un certain type de joueur qui est intéressé par ce type de trailer. Et je pense que d'une certaine manière, une partie de cette population et une partie du reste de la population du mobile peut voir ce trailer-là et se dire « Ah ouais, ça a l'air sympa quand même !» C'est vraiment du branding, quoi. C'est genre, comment est-ce qu'on se sent quand on joue à Hearthstone ? C'est genre « Ah, oh, je mets des cartes, ça fait des trucs, ça fait des effets. » Et le fait que Hearthstone n'ait pas de chat et pas de toxicité possible, au-delà du fait d'ajouter un joueur contre lequel on a perdu et de l'insulter ensuite s'il a accepté notre invitation, mais le fait de qu'il n'y ait aucune toxicité possible, c'est un truc qui peut vraiment plaire à une nouvelle section de la population, et je pense que c'est vraiment cet aspect, bah, comme vous l'avez dit, quoi, c'est allons chasser les casuals, les gens qui sont un petit peu plus casuals et qui sont pas généralement intéressé par Hearthstone, parce qu'il y a un potentiel en plus et qu'on a épuisé notre potentiel existant, quoi.
Pour moi, donc tu veux dire qu'on va avoir des clips de 25 secondes de chansons dans tous nos jeux freemium?
Écoute, il n'est pas impossible que ça influence le reste de l'industrie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des chansons partout dans Hearthstone, et franchement, enfin, moi je pense qu'il est difficile de pas être un petit peu enivré par ce clip, quoi. C'est tellement mignon, c'est tellement beau. Ouais,
c'est ça. Il a un potentiel de feel good.
C'est ça, ouais.
Incroyable. Mmh. Et tu vois, moi, j'ai arrêté de jouer à Hearthstone il y a quelques temps, et juste de retrouver les personnages, parce que c'est tous des personnages emblématiques du jeu, c'est assez grisant.
Mais c'est exactement pareil. Moi, je joue plus à Hearthstone depuis, je sais pas, peut-être un an, je le lance de temps en temps pour voir des trucs. Et d'ailleurs, il y a des, je disais, le début de la dernière extension est hilarant, hyper bien écrit. Mais voilà, j'y joue plus sérieusement depuis longtemps. Et voir ce truc, je me dis, on revient encore à la question de s'il y avait pas 12 000 jeux sympas auxquels il faut jouer, auxquels j'ai envie de jouer en ce moment, je pense que ce genre de truc, c'est un truc qui me ferait m'y replonger un petit peu plus sérieusement, quoi.
Ouais.
Donc voilà pour Blizzard. Petite note. Alors, quand même. Oui, pardon, vas-y.
Juste avant qu'on finisse sur Blizzard, est-ce que j'ai été la seule à avoir cette sensation de malaise en regardant la vidéo de la conférence ou pas ? Où j'avais l'impression que. Ouais, c'est-à-dire que ils ont fait quelque chose qui m'a vraiment surpris. C'est-à-dire qu'ils ont fait leur conférence en anglais à la Gamescom.
Ah, mais c'est toujours le cas, hein.
Mmh. Bah, en fait, le truc, c'est qu'à la Gamescom, tout est en allemand. Mais... Il y a vraiment et du coup pendant la conférence quand les mecs étaient en train d'essayer de galvaniser la foule, j'avais l'impression qu'il y avait un espèce de petit un délai. Ouais.
Ils n'étaient pas super chauds, oui, ça j'ai vu.
C'est ça. Et j'avais vraiment l'impression que c'était ce temps de comprendre ce que le mec raconte en anglais avant de réagir. Et du coup, je suis allée me renseigner et je pensais qu'ils avaient au moins un système de sous-titrage en allemand, et alors que pas du tout.
Bah, écoute, ils ont pour les trailers effectivement une partie en allemand. Enfin, sur un des écrans, c'est en allemand. Je sais parce que j'y ai bossé. Mais par contre, pour les présentations, c'est jamais en allemand. Et la plupart des gens, je pense, généralement, qui sont dans le public parlent anglais. Mais, enfin, peut-être pas tous, certainement.
Mais non, c'est, mais tu sais, ça fait des années qu'ils ont des conférences. Après, il y a parler anglais et parler anglais.
Ouais.
Tu peux comprendre l'anglais et pas avoir la rapidité de compréhension qui te permet d'être réactif en temps réel, quoi.
Écoute, je sais pas, moi, les dernières fois où j'y étais, c'était pour des présentations de trailers et trucs comme ça, ça s'était plutôt bien passé, mais c'est les développeurs qui viennent faire les présentations et à chaque fois, ils parlent anglais. Donc, ça m'a pas choqué plus que ça cette fois-ci parce que c'est toujours comme ça. Mais et puis ils font les lives, quoi, tu vois, c'est pour la Gamescom, mais c'est aussi et surtout pour le public qui regarde le live. Donc
oui, non, c'est sûr. Bah, enfin, oui, le but ce serait pas d'avoir un présentateur, d'avoir quelqu'un qui parle allemand tout le temps. Mais je pensais qu'en fait il y avait au moins du sous-titrage pour en temps réel, et pas du tout.
Non, bah les trailers, oui, souvent les sous-titres pour les trucs écrits en allemand, mais bah, je sais pas, peut-être que ça m'a... Bon, je faisais en même temps une émission, en même temps que je regardais le live, donc ça m'a peut-être pas choqué autant que si j'avais regardé sans en parler en même temps. Bah écoute, ça sera un feedback à donner à mes anciens collègues des relations publiques chez Blizzard. Et oui, et un autre truc que je voulais évoquer, c'est que dans le dernier Investors Call de Activision Blizzard, ils ont mentionné encore une fois ce fameux incubateur de start-up interne pour des nouveaux jeux, des nouvelles expériences et des nouvelles IP chez Blizzard, et on en parle de temps en temps, mais tous leurs plus grands développeurs et leurs directeurs de jeux sont partis, ont disparu des jeux existants et sont en train d'aller développer d'autres jeux, donc c'est hyper intriguant. Et donc ils disent qu'ils sont en train de penser à différentes plateformes, et en particulier le mobile. Donc il n'est pas impossible qu'on voit arriver d'autres jeux spécifiquement conçus pour le mobile d'ici quelques temps de chez Blizzard. Et moi je crois que si Cory Stockton n'est pas en train de développer un jeu sur Switch, je sais pas ce qui se passe, mais il y a un truc bizarre. C'est le plus grand fan de Nintendo que j'ai jamais vu dans l'industrie du jeu vidéo.
Ça serait tellement bien, un jeu Blizzard sur Switch.
Ah, ça serait fou, hein. Mais bon, ça ne sont que des spéculations. Quelques petites news en plus pour conclure. D'abord, le HTC Vive a eu son prix réduit à $600 aujourd'hui. Contrairement à ce que je pensais peut-être voir arriver, il n'y a pas eu de nouvelles annonces de VR à la Gamescom. D'ailleurs, il n'y a pas eu beaucoup de VR à la Gamescom tout court. Et donc, les casques qui sont sortis, bah, c'était il y a déjà un an et demi, sont maintenant à des prix un petit peu plus raisonnables. C'est le Rift et le HTC Vive. Donc, si vous étiez hésitant, bon, ça reste quand même des prix conséquents. Il y a un Tekken qui a été annoncé sur mobile. Là encore, Patrick aime les jeux de combat. Atlus a ouvert une filiale en Europe, tiens. Atlus, qui est quand même un des développeurs japonais qui a le vent en poupe ces derniers temps, hein, Persona, entre autres, et ben ils ont une petite filiale en Europe. Alors c'est pas énormément de monde, mais c'est bien qu'ils se développent chez nous aussi. Et quoi d'autre ? Je crois que c'est à peu près tout, hein, à moins que vous n'ayez des choses dont vous vouliez parler également. Non ?
Juste pour revenir sur le Vive. Moi j'étais plutôt comme toi, je pense que ça sent le sapin pour les premières versions des casques VR, et je me suis dit que c'est pour ça que le Vive aussi s'alignait sur Oculus. Maintenant c'est je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps, c'est est-ce que du coup ça vaut le coup d'acheter un Oculus Si on a de l'argent à mettre là-dedans, est-ce que ça vaut le coup d'acheter un casque VR aujourd'hui parce que c'est moins cher, ou est-ce que on suppute en disant ah ben non, mais si c'est moins cher, c'est qu'il va y en avoir des mieux dans pas longtemps.
C'est toujours la grosse interrogation. Moi je dirais que je pense que ça va pas trop tarder, l'arrivée des nouveaux, quoi. Donc c'est compliqué. Je crois que oui, si vous en vouliez pas à 800, je sais pas si vous en voudrez à 600.
Donc je me suis tâté hein pour l'Oculus. Ouais, pour l'Oculus, quand il est arrivé à 449 là cet été avec la promo, du coup ça te faisait un casque de très bonne qualité au même prix, enfin un petit peu moins cher que le PlayStation VR tout équipé. Donc c'est parce que une des raisons, c'est parce que mon Shadow actuellement ne prend pas en charge l'Oculus, mais sinon ça m'aurait bien chatouillé quand même.
Ouais, je comprends. Je crois que oui, il y a quelques personnes qui se poseront la question d'une manière générale. Moi, ce que je dirais, c'est que si vous n'avez pas craqué jusqu'à maintenant, attendez les nouvelles versions. Je recommanderais pas aux gens d'acheter un truc maintenant. Il risque d'y avoir des promos à Noël. Moins que ça soit l'affaire du siècle, ouais, je serais hésitant, moi, je dirais. Mais bon. Écoutez, je pense que ça va être tout pour notre émission. Un petit mot quand même pour vous dire que vous pouvez toujours laisser des commentaires et des notes sur iTunes et vous parler de deux personnes qui ont laissé des commentaires. Il y a Hangsun de Belgique qui dit incontournable, un podcast incontournable de l'actualité du jeu, et Rémi W du Canada qui dit « Excellent podcast avec de très bons intervenants », merci beaucoup Rémi, mais qui dit également qu'il a l'impression que j'aime pas les jeux vidéo. Alors, je résume, hein. Je résume il dit « Au fil des émissions, j'ai plutôt l'impression d'entendre quelqu'un de blasé qui passe à côté du message des jeux vidéo ». Et ça m'a un petit peu interloqué quand j'ai lu ça, parce que vraiment, moi, je me considère comme non seulement quelqu'un qui adore les jeux vidéo, enfin c'est mon hobby favori, mais en plus, je me considère souvent comme quelqu'un de relativement positif. Et du coup, j'y ai pensé un petit peu, et je me dis, je pense que il y a quelque chose qui est un petit peu nouveau depuis une dizaine d'années dans le jeu vidéo, qui est lié à la prise d'ampleur de notre hobby et du fait qu'il y a tellement de types de jeux vidéo différents. C'est un petit peu comme dire... c'est comme mettre la télé, le ciné, YouTube ensemble. Et si quelqu'un n'apprécie pas particulièrement un style de production audiovisuelle, se dire « Ah bah oui, bah il aime pas vraiment les productions audiovisuelles. » Enfin, forcément, il y a tellement de jeux vidéo différents, il y en a qu'on va aimer, il y en a qu'on va pas aimer. Et je crois que là où ça devient un petit peu pervers, et je m'en excuse si c'est une impression que j'ai donnée, c'est quand on commence à dire que les jeux vidéo que nous, on n'aime pas, que une personne n'aime pas, sont pas bien. Alors oui, il y a des jeux, je pense, qui sont objectivement bons ou moins bons. Je pense qu'il y a une qualité de production, une qualité... il y a toujours, comme partout, hein, comme dans tous les arts, il y a des trucs où tu peux dire, bon, là, c'est un peu paresseux, là, c'est pas super, c'est fait à la va-vite, machin. Mais il y a aussi des jeux qu'on va aimer parce que c'est notre style de jeu et des jeux qu'on va moins aimer parce que c'est simplement un truc qui nous parle pas à nous. Et là où je pense qu'on fait mal notre travail en tant que journaliste ou critique du média, c'est quand on confond notre goût personnel et la qualité intrinsèque du produit dont on va parler. Et c'est un défaut, je pense, qui est présent partout, peut-être un petit peu plus en France, et je pensais pas en être... victime ou coupable, mais si c'est le cas, encore une fois, je m'en excuse. Mais on peut pas. J'essaye moi toujours de dire moi c'est pas mon truc. Et je pense que c'est beaucoup plus intellectuellement honnête et juste que de dire c'est pas bien. Parce que il y a plein de jeux qui moi, l'un des exemples que je prends souvent et je pense que oui, c'est ça que Rémi évoque, c'est genre The Witcher 3 ou Dark Souls. Il dit c'est frustrant de voir Patrick passer à côté de chefs-d'œuvre comme ces jeux. Ah oui, mais je suis sûr que toi Rémi, tu passes à côté de entre guillemets chefs-d'œuvre qui moi m'ont absolument retourné et sur lesquels j'ai passé énormément de temps. Je vais pas en citer certains parce que ça sert à rien, mais c'est juste que le panorama des jeux vidéo est tellement vaste, il y a forcément des trucs que certaines personnes vont aimer ou adorer et d'autres non. C'est impossible d'adorer tous les chefs-d'œuvre qui sont sortis dans ne serait-ce que les deux dernières années, quoi. C'est juste pas possible. On peut pas tout aimer. C'est comme dire dans la cuisine, tu aimes toute la cuisine du monde. Non, il y a des trucs que t'aimes. Enfin, la plupart des gens. Hein, je suis sûr qu'il y a des gens qui aiment tout, mais la plupart des gens aiment certains trucs et un peu moins d'autres. Et encore une fois, là où je pense qu'il est important de faire une distinction, c'est sur des trucs comme The Witcher 3 ou même encore plus Dark Souls, reconnaître l'importance du jeu, la qualité du jeu, l'importance pour l'industrie même que peuvent en avoir certains, même quand on n'est pas soi-même séduit par le produit. Et je crois que c'est là que on peut émettre une certaine critique. Et si moi, j'ai montré à un moment que certains de ces jeux, bah, je les ai pas appréciés pour ce qu'ils sont, pour leur qualité intrinsèque, bah, c'est une erreur de ma part, mais je pense vraiment pas faire ce genre de choses. Mais voilà, je voulais l'évoquer simplement pour rappeler encore une fois cette idée que on n'est pas obligé de tout aimer et le fait qu'on n'aime pas quelque chose veut pas dire que la chose en question n'est pas de qualité. Et cette distinction entre ne pas aimer et ne considérer que c'est entre guillemets pas bien ou de la merde comme on a souvent tendance à l'entendre, c'est une distinction hyper importante, quoi.
Je peux juste rajouter un petit
truc.
Oui,
bien sûr, bien sûr.
Pour moi, il y a en plus un troisième truc aussi à prendre en considération parce que c'est aussi un sujet auquel j'apporte beaucoup d'importance. Il y a aussi le fait qu'on ait les clés ou pas pour appréhender tel ou tel jeu parce que tu n'appréhendes pas un Dark Souls comme tu appréhendes un Tacoma ou un Gone Home ou encore un Witness. Et parfois, c'est compliqué d'avoir les clés pour appréhender correctement un certain type de jeu ou un certain jeu. Là, je vois, je suis enfin en train de faire The Witness et je suis en train de vivre le jeu de la manière dont il ne faut absolument pas la vivre, qui n'a pas été pensée par Blow. C'est-à-dire que je trouve le jeu hyper pédant par rapport à moi et qu'il est en train de me dire mais t'es qu'une pauvre merde, tu ne sais pas réfléchir. Enfin, bah, voilà.
C'est ce alors qu'on évoquait un petit peu dans l'épisode précédent avec.
Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Et parfois on n'a pas non plus les clés pour appréhender un jeu, mais c'est pas grave parce que c'est au même titre que l'affect. On l'a pas, mais du moment qu'on est capable d'être objectif et de voir les qualités de quelque chose. Il y a aussi ça à prendre en compte.
Je suis assez d'accord, oui. C'est un petit peu comme le cinéma, quoi. Il y a des, enfin, comme n'importe quelle forme d'art, finalement. Il y a les expériences personnelles, les goûts personnels, et puis la connaissance qu'on a peut-être du média, la manière dont on va avoir une relation émotionnelle avec le truc qu'on est en train de vivre. C'est un bon exemple, celui que tu donnes de Witness. Tu évoquais Gone Home aussi, et c'est un exemple qu'on peut prendre parce que moi je me le suis pris en pleine figure ce jeu. J'ai tendance à aimer les jeux plutôt narratifs, enfin bon, il y a différents types de jeux que j'aime, mais les jeux narratifs me plaisent bien, et Gone Home c'est beaucoup de gens l'appellent un walking simulator, et c'est vrai qu'on peut en parler comme ça. Il y a plein de gens qui l'ont trouvé super chiant, inintéressant, tellement peu d'interactivité, etc., peu de gameplay. Et c'est complètement vrai. Mais moi, je l'ai fait deux fois de suite, quoi. Je l'ai fini, je l'ai refait immédiatement. Je l'ai même obligé ma femme à le faire, qui elle, bon, elle est pas très fan de jeux vidéo, mais quand elle a fini, elle a fait, ouais, ok. Et moi, tu sais, je la regardais, je me disais, mais est-ce que tu vas pas, c'est à ce moment qu'elle va être complètement, c'est mind blown ce qui va se passer. Et en fait, et je lui ai pas parlé pendant deux semaines, c'était dramatique, quoi.
J'ai eu des expériences comme ça.
Mais bon, donc voilà, merci beaucoup Rémi pour ton commentaire sur iTunes et pour nous avoir donné l'occasion de faire ce mini débat, parce que je pense que c'est bon d'en parler de temps en temps aussi et puis de réévoquer ce genre de choses. surtout dans une industrie aussi complexe et intéressante que celle qui nous passionne. Voilà, quelque chose à ajouter, d'Irène, Jean, ou alors on se dirige vers la fin, oui.
Comme vous êtes en train de parler de trucs qui touchent différemment, etc., etc., moi, je veux juste mettre un petit spot sur j'ai réussi à sneaker chez Focus Interactive, qui sont l'éditeur de The Call of Cthulhu. Oui. Et donc, du coup, j'ai pu jeter un coup d'œil au jeu.
C'est sur ce jeu que travaille la Lupia, non?
Tout à fait. Oui, en fait, elle m'a teasé à mort avec ses tweets. Du coup, j'ai supplié la RP de Focus de me laisser jeter un coup d'œil à la presse. Et je pense que c'est pour les fans de l'univers de Cthulhu, les anciens rôlistes, etc., etc. Allez jeter un coup d'œil parce que ça. Alors, la version que j'ai vue est une version pré-alpha qui est donc très loin du rendu final. Mais ils ont l'air d'avoir compris l'esprit. Et en fait, au moment où j'ai vu comment est-ce qu'ils géraient les points de santé mentale, j'ai fait « Ok, j'achète
!» D'accord, bah écoute, un truc également à garder à l'esprit, Call of Cthulhu de chez Focus. Il a une date de sortie déjà ou pas?
Je ne sais plus. Alors, c'est fait par le studio Cyanide. Et est-ce qu'il a une date de sortie? Non, je crois qu'ils l'ont annoncé pour la fin de l'année, mais je crois pas qu'on ait un truc.
D'accord.
Il a été annoncé pour 2017, je crois pas qu'il.
Ah, décembre 2017, oui.
Décembre.
Bon. Décembre 2017, selon la fiche Wikipédia. Très bien.
Parfait.
Donc ça arrive également. Ok, et bah écoutez, merci à tous les deux pour cet épisode Gamescom Plus fort sympathique, 1h30 bien heureuse passée en votre compagnie, et si les auditeurs veulent passer un petit peu plus de temps en votre compagnie, est-ce que vous pouvez nous donner votre adresse et votre numéro de téléphone s'il vous plaît? Ah, non, pardon, je voulais dire votre compte Twitter par exemple. D'Irène, à chaque fois j'oublie, vas-y.
D'Irène, D-I-R-A-E-N, tout simplement. Twitter. Partout.
Magnifique. Partout.
Everywhere. Partout.
Alors, mais quel réseaux sociaux et sites internet tu utilises en plus de Twitter, tiens?
Alors, Twitter, Instagram, Facebook. Je me suis mis à fond sur Instagram en ce moment, donc j'en parle.
D'accord.
Et puis là, j'essaye de relancer mon blog.
Flopisation est de retour.
Ouais, j'ai décidé que j'allais m'y remettre avec un angle un peu différent. Et puis, évidemment, toujours tous les mois, avec l'amie Sophie de chez JV Le Mag, on anime notre podcast ABCD sur la parentalité geek, avec un nombre de nullipares, donc de non-parents croissants qui nous écoutent, et ça, c'est vraiment cool.
Ouais, on a plus en plus de gens.
Oui.
C'est le terme officiel.
C'est le terme pour les gens qui n'ont pas encore d'enfants.
D'accord,
voilà,
très
c'est
bien.
Des nullipares.
Donc ça veut dire que j'ai le droit d'écouter ABCD aussi?
Alors tout à fait, et non mais nous c'est vrai qu'on s'adressait plutôt aux parents, et il y a quelque chose d'hyper gratifiant à avoir des gens qui n'ont pas d'enfants, qui disent « bon bah moi j'ai pas d'enfants, je sais même pas si j'en veux, mais alors vu le nombre de bêtises que vous racontez, qu'est-ce que je rigole ». Voilà.
D'accord, très bien, bon bah c'est le podcast ABCD.
Et elle chante aussi.
Ouais, on chante.
Jean, de quoi peux-tu nous parler?
Eh bien moi, vous cherchez sur les réseaux sociaux soit Papa Podcast, soit Papa à quoi tu joues sans S.
Parce que c'est trop court sur Twitter, c'est pas qu'il sait pas conjuguer le verbe jouer, mais voilà, c'est pour ça.
Voilà. Et sinon, eh bien sur papapodcast.fr, vous retrouvez eh bien tout ce qu'on fait, c'est-à-dire Papa à quoi tu joues et Papa à quoi on joue. Donc le premier, c'est ça s'adresse aux parents et on traite l'actu du JV plutôt d'un côté sociétal. On parle de handicap, on parle de qu'est-ce que c'est qu'un jeu vidéo. On parle aussi, et on vous conseille des jeux aussi. Et donc là, sur celui qui va sortir le 1er septembre, on va vous parler de Hellblade, Neverending Nightmare et Danganronpa Trigger Happy Havoc. On aura aussi Christophe Herbal en invité. Et voilà. Et puis, Papa à quoi on joue, bah, c'est pour vous conseiller des jeux à faire en famille avec vos enfants, que ce soit des jeux vidéo ou de plateau. Et je suis toujours accompagné de Arnaud et David et parfois d'un invité.
Magnifique. Merci beaucoup, Jean. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter et sur Facebook, pardon. Et vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur frenchspin.fr avec d'autres émissions comme au hasard le Rendez-vous Tech qui est un podcast qui couvre l'actualité tech comme on couvre l'actualité jeux vidéo ici de manière simple et agréable, j'espère en tout cas. Il y a également Upload et Positron qui vont faire leur rentrée en septembre. J'espère que vous serez là aussi pour nous accompagner dans ces incroyables aventures. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous pour un nouveau rendez-vous jeu dans 15 jours. Ciao à tous.
Et nous,
ciao, ciao.
On te remercie de nous avoir invités.
Oui, c'est vrai, merci.
Salut.
Bisous, ciao.
Ciao.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.